journal de tumulte, pardon. François va nous donner ses nouvelles d'Europe en nous parlant de l'affaire Microsoft et la politique de concurrence de l'Union européenne. François.
La Cour de justice européenne a confirmé le 7 septembre la condamnation de Microsoft. Rappelons les événements. En 1998, une plainte a été déposée par une société américaine, Sun Microsystems. Après enquête, la commission a estimé que Microsoft abuse de sa position dominante. Rappelons que Microsoft équipe 95% des ordinateurs individuels. Donc Microsoft abuse entre autres pratiques commerciales condamnables en liant la vente de ses systèmes à l'exploitation de son logiciel Media Player. Microsoft a été condamné notamment à une amende de 497 millions d'euros et a donné à ses concurrents la documentation qui leur permettra de rendre leur système compatible avec ceux de Microsoft. C'est cette décision qui a été confirmée par la Cour de justice. Elle aura des conséquences importantes pour Microsoft qui devra adapter sa politique de développement et sa politique commerciale au bénéfice des consommateurs et des entreprises européennes. C'est l'occasion de rappeler en quelques mots ce qu'est la politique de concurrence européenne. Cette politique a fait figure d'épouvantail lors des débats sur le traité constitutionnel en 2005 et elle nécessite quelques explications. Elle est née avec le traité de Rome en 1957 et la mise en place du marché commun. Elle contribue à assurer la libre circulation des biens et des services et à faire baisser leurs prix dans le marché unique de l'Union européenne. Concrètement, elle assure plusieurs tâches. Traquer les pratiques anticoncurrentielles, lutter contre les ententes entre entreprises, qui permettent d'augmenter les prix en se partageant le marché, lutter contre les abus de position dominante, qui permettent à une société en situation de monopole d'imposer ses conditions commerciales, surveiller les aides d'État aux entreprises. Ces aides deviennent facilement des mesures d'urgence pour sauver une entreprise en difficulté, mais peuvent être coûteuses en deniers publics et aussi fausser les règles de compétition entre entreprises. Contrôler les concentrations. L'Union exerce un contrôle a priori. Lorsqu'une fusion ou un rachat d'entreprise risque de créer une situation de position dominante, elle l'empêche en interdisant la concentration. La politique de concurrence est d'abord une politique destinée à organiser le marché unique. Mais l'affaire Microsoft met en évidence le poids que peut exercer l'Union européenne au plan international et sa contribution à la régulation de l'économie mondiale. L'Union européenne est la première puissance commerciale du monde et les grandes entreprises mondiales ne peuvent pas l'ignorer. Ces règles s'appliquent aux entreprises européennes, mais aussi aux entreprises étrangères qui produisent en Europe ou qui commercent avec elles. En 2000, l'Union s'est opposée par exemple au rachat de Honeywell, fabricant américain de moteurs d'avion, par General Electric, autre entreprise américaine. La politique de concurrence est une protection pour les Européens. Mais l'Union européenne, par ce moyen, ne fait pas que changer un rapport de force. Elle fait aussi régner à l'échelon international les principes de l'état de droit et contribue ainsi à une nouvelle gouvernance économique mondiale. Du reste, les Américains s'en sont bien rendus compte. Le Wall Street Journal a dénoncé, à l'occasion de l'affaire Microsoft, l'impérialisme régulateur de l'Union. Le New York Times, lui, a fait l'éloge du soft power américain, pardon, européen. Bien entendu, l'organisation du marché unique ne se limite pas à la mise en place de règles de concurrence. Pour organiser le marché, sont aussi prévues une harmonisation des normes, des règles de protection du consommateur, des règles particulières concernant les services publics, etc. On peut en reparler si vous le souhaitez.
François, la suite, alors, sur la question de la concurrence.
Ah ben, si tu veux, je vais poursuivre. La place de la concurrence dans l'organisation du marché, puisque je viens de dire que c'était pas évidemment la seule politique. Je citerai la formule de Jacques Delors qui décrit le marché unique en trois termes. La coopération qui renforce, la compétition qui stimule, la solidarité qui unit. Ça veut dire quoi? La coopération qui renforce, c'est le travail d'harmonisation important qui a été fait entre les réglementations des États pour rendre possible la libre circulation des biens, des services, des capitaux. La compétition qui stimule, c'est la surveillance des règles de concurrence loyale entre entreprises, ce dont nous venons de parler. La solidarité qui unit, n'oublions pas que l'essentiel du budget européen est consacré à des politiques de solidarité entre les pays membres, leurs entreprises, leurs salariés. Le budget de la politique agricole commune est le premier budget de l'Union. Le Fonds social européen, le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen d'orientation de politique agricole ont servi à aider de nouveaux pays membres. Les fonds de cohésion sont faits pour aider les pays candidats à l'euro. Les fonds structurels servent aux régions en retard de développement et constituent le deuxième budget de l'Union. D'autre part, bien des questions sociales sont restées de compétences nationales. De nombreux textes européens touchent à la libre circulation des travailleurs, aux coordinations des régimes de sécurité sociale, à la non-discrimination, à l'emploi, conditions de travail, santé sur le lieu de travail, lutte contre l'exclusion sociale. C'est cet ensemble de politiques qui permet de qualifier l'Europe d'économie sociale de marché.
Alors François, une question sur la question de la concurrence. Tu as parlé de solidarité. Est-ce qu'une des questions auxquelles l'Union européenne a dû faire face et doit faire face, c'est la question de son élargissement? Et classiquement, quand l'Union européenne s'élargit, il y a des mesures de solidarité qui permettent aux nouveaux pays entrants de pouvoir assurer une situation qui soit au niveau de celle qu'assument les pays déjà implantés dans l'Union européenne, qui permettent une harmonisation et pas une concurrence par le bas. Est-ce que au moment de cet élargissement, on a dit que finalement l'Union européenne avait peu consacré de moyens pour assurer cette harmonisation avec les pays entrants?
Alors il y a des principes, hein. J'ai parlé des fonds de cohésion qui sont faits pour aider les pays candidats à l'euro. Il y a des fonds qui sont là pour aider les pays à se préparer à l'entrée dans l'Union. Et puis, il y a des fonds structurels qui servent aux pays entrants à se mettre à niveau des autres pays de l'Union. Alors, ces fonds sont différents selon les circonstances. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de fonds très importants correspondant à plusieurs points de PIB. Pour l'entrée du Portugal et de l'Espagne, et que pour les nouveaux pays entrants de l'Est, ces fonds étaient beaucoup moins importants.
Et les conséquences alors justement d'une telle situation
Les conséquences, c'est une adaptation éventuellement plus lente, mais l'ensemble des politiques ont pour but d'amener une convergence des économies, donc un rattrapage progressif des nouveaux pays membres.
Bien. Quelques nouvelles en bref, François?
Alors, quelques brèves. Élargissement de l'espace Schengen. Avant la fin 2007, 9 des 10 nouveaux États membres, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, seront membres de l'espace Schengen, qui permet notamment la suppression de tout contrôle aux frontières intérieures et la mise en place d'une politique unique de visa. Autre brève, un sondage. Le sondage effectué par le think tank européen Council on Foreign Relations auprès de 50 000 personnes dans 52 pays à travers le monde nous apprend que l'Union européenne, arrive en tête des puissances mondiales dont une influence accrue est souhaitée par les citoyens de la planète.